Chapitre 28. Les deux destinées. Je ne fis aucun mouvement pour quitter la chambre. Je ne laissai échapper aucun signe de douleur. Mon cœur s'était endurci contre la femme qui m'avait si obstinément repoussée. Je la contemplais étendue par terre, avec une colère impitoyable dont le seul souvenir me remplit aujourd'hui d'horreur pour moi-même. Je n'ai pour moi qu'une excuse. Le coup que me portait la chute finale du seul espoir qui me retenait à la vie dépassait tout ce que ma raison pouvait supporter. Cette terrible nuit-là, quoique j'aie pu être à d'autres époques, je devins fou, je le crois fermement. Je fus le premier à rompre le silence. « Levez-vous !» lui dis-je froidement. Elle leva la tête et me regarda comme si elle doutait d'avoir bien entendu. « Mettez votre chapeau et votre manteau, » repris-je. « J'ai à vous prier de m'accompagner jusqu'au bâtiment. » Elle se leva lentement. Ses yeux se fixèrent sur mon visage avec un triste regard d'étonnement. « Pourquoi dois-je vous accompagner au bâtiment ? » demanda-t-elle. L'enfant l'entendit et accourut vers nous avec son petit chapeau dans une main et la clé de la cabine dans l'autre. « Je suis prête, » dit-elle, « j'ouvrirai la porte de la cabine. » Sa mère lui fit signe de retourner dans la chambre à coucher. Elle s'éloigna jusqu'à la porte qui conduisait dans la cour et y attendit pour écouter ce qui allait suivre. Je me retournai froidement vers Madame Van Brandt et je répondis à la question qu'elle venait de m'adresser. « Vous n'avez pas les moyens de partir d'ici, » dis-je. « Dans 2 heures, la marée me favorisera et je mettrai à la voile pour mon voyage de retour. Nous nous quittons cette fois pour ne jamais nous revoir. Avant de partir, je veux vous laisser de quoi vivre convenablement. Mon argent se trouve dans mon sac de voyage, dans la cabine. C'est pourquoi je suis forcée de vous prier de m'accompagner jusqu'au bâtiment. » « Je vous remercie gracieusement de votre bonté, » dit-elle, « mais je n'ai point un aussi pressant besoin de secours que vous le supposez. »« Il est inutile de chercher à me tromper, » poursuivis-je. « J'ai vu un des chefs de la maison Van Brandt à Amsterdam et je connais exactement votre position. Il faut que votre orgueil s'abaisse jusqu'à accepter de mes mains les moyens de vivre, vous et votre enfant. Si j'étais mort en Angleterre... » Je m'arrêtai. Mon idée inexprimée devait lui annoncer que mon testament lui eût laissé un legs et qu'elle pouvait tout aussi bien accepter de moi, vivant, l'argent qu'elle eût reçu de mes exécuteurs testamentaires après ma mort. Au moment de traduire cette pensée en paroles, les souvenirs qu'elle évoqua naturellement me rappelèrent mon projet de suicide dans le lac. Mêlé à ces souvenirs, surgit spontanément en moi une tentation si indiciblement atroce et pourtant si irrésistible dans l'état où se trouvait alors mon esprit qu'elle m'ébranla jusqu'au fond de l'âme. « À quoi bon vivre maintenant qu'elle a refusé d'être à vous ?» me souffla le démon. « Faites le saut dans l'autre monde et entraînez-y avec vous la femme que vous aimez. » Pendant que je regardais Madame Van Brandt, pendant que mes dernières paroles tremblaient encore sur mes lèvres, l'horrible facilité de commettre ce double crime se révéla avec un air séduisant à ma vue. Mon bâtiment était amarré dans la seule partie du port délabré où la pleine mer arrivait encore au pied du quai. Je n'avais qu'à décider Madame Van Brandt à me suivre lorsque je mettrais le pied sur le pont, à la saisir dans mes bras et à sauter avec elle par-dessus bord avant qu'elle eût pu jeter un cri de détresse. Mes matelots endormis, je le savais par expérience, étaient durs à réveiller et lents à agir une fois qu'ils l'étaient. Nous serions noyés tous les deux avant que le plus jeune et le plus agile d'entre eux fût sorti de son lit et arrivé sur le pont. Oui, nous serions rayés ensemble du nombre des vivants au même instant. Et pourquoi pas ? Celle qui avait constamment refusé d'être ma femme, méritait-elle que je la laissasse libre de retourner une seconde fois avec Van Brandt ? Le soir où je l'avais sauvée des eaux de la rivière écossaise, j'étais devenue maître de son sort. Elle avait essayé de se détruire elle-même en se noyant. Eh bien, elle se noierait maintenant entre les bras de l'homme qui s'était jadis précipité entre elle et la mort. Convaincu par cet atroce raisonnement, je regardai en face Madame Van Brandt et je revins délibérément à ma phrase interrompue. « Si j'étais mort en Angleterre, mon testament vous eût laissé de quoi vivre. Ce que vous auriez alors accepté de moi, vous pouvez le recevoir maintenant. Venez au bâtiment. Pendant que je parlais, sa physionomie changea et ses yeux commencèrent à exprimer une vague terreur de moi. Elle recula un peu sans me répondre. « Venez au bâtiment, » répétai-je. « Il est trop tard. » Sur cette réponse, elle chercha dans la chambre l'enfant qui attendait toujours à la porte. « Allons, Elfie, » dit-elle en donnant à la petite créature un de ses surnoms favoris. « Venez vous coucher. » Moi aussi, je regardais Elfie. Ne pouvait-elle pas, me demandai-je, me servir innocemment à forcer sa mère à sortir de la maison ? Me fiant au caractère intrépide de l'enfant et à son désir ardent de voir le bâtiment, j'ouvris subitement la porte. Comme je l'avais prévu, elle s'élança immédiatement dehors. En entrant dans la cour, je n'avais pas refermé la seconde porte qui donnait sur la place. Un instant après, Elfie se trouvait sur la place, triomphante dans sa liberté. Sa petite voix aiguë, m'appelant pour la conduire au bâtiment, rompit le silence mortel du lieu et de la nuit. Je me tournai vers Madame Van Brandt. Mon stratagème avait réussi. La mère d'Elfie ne pouvait plus guère refuser de suivre le chemin pris par Elfie. Ses yeux s'arrêtèrent un instant sur moi, avec une profonde expression de méfiance, et se détournèrent ensuite. Elle commença à pâlir. « Vous ne vous ressemblez pas cette nuit, » dit-elle. Et, sans ajouter un mot, elle prit son chapeau et son manteau et sortit devant moi sur la place. Je la suivis en fermant les portes derrière moi. Elle fit une tentative pour engager l'enfant à s'approcher d'elle. « Allons, chérie, » dit-elle d'un ton séduisant, « venez me donner la main. » Mais Elfie ne se laissa pas attraper. Elle joua des talons et répondit à une distance convenable. « Non, vous me ramèneriez me coucher. » Et elle recula un peu plus loin en agitant la clé en l'air. « J'arriverai la première, » s'écria-t-elle, « et j'ouvrirai la porte. » Elle trotta en avant dans la direction du port et nous attendit au coin de la rue. Sa mère se retourna subitement et me regarda de près à la clarté des étoiles. « Les matelots sont-ils à bord ?» me demanda-t-elle. La question me fit tressaillir. Avait-elle quelques soupçons de mon projet ? Mon visage l'avait-il averti d'un danger en expectative si elle venait au bâtiment ? C'était impossible. Le motif le plus probable de sa question était de trouver une nouvelle excuse pour ne pas m'accompagner jusqu'au port. Si je lui disais que les matelots étaient à bord, elle pourrait me dire « Pourquoi ne pas charger un de vos marins de m'apporter l'argent chez moi ?» Je prévins cet argument en lui répondant « Ce peuvent être d'honnêtes gens, » dis-je en la surveillant avec soin, « mais je ne les connais pas assez pour leur confier de l'argent. » À ma surprise, elle me surveilla aussi soigneusement et me répéta délibérément sa question. « Les matelots sont-ils à bord du bâtiment ?» Je crus prudent de céder. Je répondis oui et j'attendis pour voir ce qui allait suivre. Ma réponse parut lui rendre sa résolution. Après un instant de réflexion, elle se tourna vers l'endroit où nous attendait l'enfant. « Partons, puisque vous insistez, » dit-elle tranquillement. Je ne hasardai aucune nouvelle question. Côte à côte et en silence, nous suivîmes Elfie sur notre route au bâtiment. Pas une créature humaine ne passa près de nous dans les rues. Pas une lumière ne brilla sur nous des tristes et sombres maisons. Deux fois, l'enfant s'arrêta et se tenant toujours sournoisement hors de portée de sa mère, elle accourut à moi, étonnée de mon silence. « Pourquoi ne parlez-vous pas ? » me demanda-t-elle. « Est-ce que vous vous êtes querellée avec maman ?» J'étais incapable de lui répondre. Je ne pouvais songer qu'à mon crime prémédité. Ni la crainte, ni le remords ne me tourmentaient. Les meilleurs instincts, les plus nobles sentiments que j'avais jadis possédés, semblaient être morts et disparus en moi. La pensée de l'avenir de l'enfant ne me troublait même pas l'esprit. Je n'avais pas la force de regarder au-delà du saut fatal, hors du bâtiment. Plus loin, c'était le vide absolu. Pour l'instant, je ne puis que le répéter, mon sens moral se trouvait obscurci, mes facultés mentales avaient complètement perdu leur équilibre. L'animal, chez moi, vivait et se mouvait comme d'habitude. Mes instincts les plus vils complotaient et projetaient, et c'était tout. Personne, en me regardant, n'aurait pu distinguer autre chose sur mon visage qu'une triste quiétude et, dans mes manières, qu'un calme impassible. Et cependant, jamais fou ne fut plus digne de réclusion ou moins moralement responsable de ses actions que je ne l'étais en cet instant. L'air de la nuit souffla plus vivement sur nos visages. Toujours conduits par l'enfant, nous avions traversé la dernière rue et nous nous trouvions dans l'espace vide qui servait de limite au port du côté de la ville. Une minute après, nous étions sur le quai, à un pas du plat-bord du bâtiment. Je remarquai un changement dans l'aspect du port depuis que je l'avais quitté. Il était arrivé quelques bateaux de pêche pendant mon absence. Ils étaient amarrés, les uns immédiatement à l'arrière et les autres immédiatement à l'avant de mon bâtiment. Je regardais avec anxiété pour voir si quelques pêcheurs se trouvaient à bord et remuaient. Pas un être vivant n'apparaissait nulle part. Les pêcheurs étaient à terre avec leurs femmes et leurs familles. Elfie tendit les bras pour être soulevée à bord de mon bâtiment. Madame Van Brandt se glissa entre nous au moment où je me baissais pour enlever l'enfant. « Nous attendrons ici, dit-elle, pendant que vous irez chercher l'argent dans la cabine. » Ces paroles mettaient hors de doute qu'elle avait sur moi des soupçons qui, probablement, lui faisaient craindre non pour sa vie, mais pour sa liberté. Elle pouvait redouter d'être retenue prisonnière dans le bâtiment et emmenée par moi contre sa volonté. Elle ne pouvait appréhender rien de plus. L'enfant m'épargna la peine de faire aucune observation. Elle était décidée à m'accompagner. « Je veux voir la cabine !» s'écria-t-elle en tenant la clé en l'air. « Je veux ouvrir moi-même la porte !» Elle se dégagea des mains de sa mère et accourut près de moi de l'autre côté. Je la levai et la déposai à l'instant sur le plat-bord du bâtiment. Avant que j'eusse pu me retourner, sa mère l'avait suivie et se trouvait sur le pont. Dans la position qu'occupait Madame Van Brandt, la porte de la cabine était à sa gauche. L'enfant était derrière elle, j'étais à sa droite. Devant nous se trouvaient le pont et le plat-bord du bâtiment dominant la mer. En un instant, nous pouvions les traverser. En un instant, nous pouvions accomplir le fatal plongeon. La seule idée en amena ma folie criminelle à son paroxysme. Je devins subitement incapable de me contraindre. Je jetai mon bras autour de la taille de Madame Van Brandt avec un rire éclatant. « Allons, dis-je en essayant de l'entraîner à travers le pont. Venez contempler la mer. » Elle se dégagea par un soudain effort dont la puissance m'étonna. Avec un faible cri de terreur, elle se retourna pour prendre l'enfant par la main et regagner le quai. Je me plaçai entre elle et le bord du bâtiment et je lui coupai la retraite de ce côté. Toujours riant, je lui demandai de quoi elle avait peur. Elle se recula et arracha la clé de la porte de la cabine de la main de l'enfant. La cabine, derrière elle, était le seul lieu de refuge qui lui resta pour fuir le pont du bâtiment. Elle n'hésita pas dans la terreur du moment. Elle ouvrit la porte et descendit précipitamment les deux ou trois marches qui conduisaient dans la cabine en entraînant l'enfant avec elle. Je l'ai suivi en comprenant que je m'étais trahi, mais toujours obstinément, stupidement, follement décidé à accomplir mon projet. Je n'ai qu'à me comporter tranquillement, pensais-je en moi-même, et je la déciderai à revenir sur le pont. Ma lampe brûlait encore, comme lorsque je l'avais quittée. Mon sac de nuit était sur la table. Madame Van Brandt, tenant toujours l'enfant par la main, m'attendait, pâle comme une morte. Les yeux effarés d'Elfie se posèrent d'un air interrogateur sur mon visage lorsque j'approchai. Elle paraissait prête à pleurer. La soudaineté de l'action de sa mère l'avait effrayée. Je fis de mon mieux pour la rassurer avant de parler à celle-ci. Je lui indiquai les différents objets de nature à l'intéresser dans la cabine. « Allez les regarder, dis-je, et amusez-vous, Elfie. » L'enfant hésitait encore. « Êtes-vous fâchée contre moi ?» demanda-t-elle. Non, non. Êtes-vous fâché contre maman ? Certainement non. Je me tournai vers Madame Van Brandt. Dites à Elfie si je suis fâché contre vous, lui dis-je. Elle se rendit parfaitement compte, dans sa situation critique, de la nécessité de me complaire. Nous parvînmes entre nous à rassurer l'enfant qui s'éloigna pour examiner avec délices les objets nouveaux et étranges qui l'entouraient. Pendant ce temps, nous restâmes, sa mère et moi, à nous regarder à la clarté de la lampe, avec un calme emprunté qui servait de masque à nos véritables traits. Dans cette horrible situation, le grotesque et le terrible, toujours alliés dans notre étrange existence, apparurent maintenant ensemble. Le seul bruit qui vint rompre, de chaque côté de nous, le silence sinistre et menaçant, fut le ronflement du capitaine et de l'équipage endormi. Madame Van Brandt fut la première à parler. « Si vous désirez me donner l'argent, dit-elle en essayant de me gagner de cette manière, je suis prête à l'accepter maintenant. » J'ouvris mon sac de voyage. En y cherchant le porte-monnaie de cuir qui contenait mon argent, mon désir dominateur de l'attirer sur le pont et ma folle impatience de commettre l'acte fatal redevinrent trop puissants pour pouvoir être maîtrisés. « Nous aurons moins chaud sur le pont, dis-je. Portons-y le sac. » Madame Van Brandt déploya un courage merveilleux. Je pus presque voir monter à ses lèvres un cri d'alarme. Elle le réprima et eut assez de présence d'esprit pour prévoir ce qui arriverait avant qu'elle eût pu réveiller les matelots endormis. « Nous avons ici une lumière pour compter l'argent, » répondit-elle. « Je n'ai pas trop chaud dans la cabine. Restons-y un peu plus longtemps. Voyez comme Elfie s'amuse. » Ses yeux reposaient sur moi en parlant. Leur expression me calma pour l'instant. Je pus attendre et réfléchir. Je pouvais l'entraîner de force sur le pont avant que les matelots pussent intervenir. Mais ses cris les réveilleraient. Ils entendraient le bruit de notre chute dans l'eau et ils pourraient être assez prompts pour nous sauver. Il serait plus sage d'attendre un peu et de me fier à mon adresse pour l'amener à quitter volontairement la cabine. Je replaçai le sac sur la table et je commençai à chercher le porte-monnaie de cuir. Mes mains étaient étrangement maladroites et inertes. Je ne pus trouver le porte-monnaie qu'après avoir éparpillé sur la table la moitié du contenu du sac. L'enfant se trouvait près de moi alors et elle remarqua ce que je faisais. « Oh, que vous êtes maladroit !» s'écria-t-elle avec sa franchise intrépide. « Laissez-moi ranger votre sac, je vous en prie !» Je lui accordai sa requête avec impatience. Le désir turbulent d'Elfie d'être toujours à faire quelque chose au lieu de m'amuser comme d'habitude m'irrita alors. L'intérêt que m'avait inspiré jadis cette charmante petite créature avait disparu. Un sentiment innocent ne pouvait qu'être étouffé dans l'atmosphère empoisonnée de mon esprit cette nuit-là. L'argent que j'avais sur moi consistait presque entièrement en billets de la Banque d'Angleterre. Je mis à part la somme probablement nécessaire pour amener un voyageur à Londres et je déposai le reste entre les mains de Madame Van Brandt. Pouvait-elle, après cela, me soupçonner encore d'un projet d'attentat contre sa vie ? À l'avenir, dis-je, je pourrai communiquer avec vous par l'intermédiaire de Messieurs Van Brandt d'Amsterdam. Elle prit l'argent machinalement. Sa main tremblait. Ses yeux rencontrèrent les miens avec un regard de tendre supplication. Elle essaya de faire revivre mon ancienne tendresse pour elle. Elle adressa un dernier appel à ma générosité et à mes égards. « Nous pouvons nous séparer en amis, » dit-elle d'un ton grave et tremblant. « Et nous pourrons nous revoir en amis lorsque le temps vous aura amené à songer avec indulgence à ce qui s'est passé entre nous cette nuit. » Elle me tendit la main. Je la regardai sans la prendre. Son but était clair. Me soupçonnant encore, elle avait tenté sa dernière chance de regagner la terre saine et sauve. « Moins nous parlerons du passé, et mieux vaudra, » répondis-je avec une politesse ironique. « Et vous conviendrez avec moi que Elfie devrait être couchée. » Je regardai l'enfant, les deux mains toujours occupées, à remettre en ordre mon sac de voyage. « Dépêchez-vous, Elfie, lui dis-je, votre maman s'en va. » J'ouvris la porte de la cabine et j'offris mon bras à Madame Van Brandt. « Ce bâtiment est ma maison pour l'instant, » repris-je. « Lorsque des dames me quittent, après une visite, je les escorte jusqu'au pont. Prenez mon bras, je vous en prie. » Elle recula en tressaillant. Pour la seconde fois, elle fut sur le point de crier au secours et pour la seconde fois, elle garda en réserve cette dernière ressource désespérée. « Je n'ai pas encore examiné votre cabine. dit-elle, les yeux pleins de terreur et un sourire forcé sur les lèvres tout en parlant. « Voilà différents petits objets qui m'intéressent. J'ai besoin de quelques minutes encore pour les regarder. » Elle se détourna pour se rapprocher de l'enfant sous prétexte de visiter la cabine. Je montai la garde devant la porte ouverte en la surveillant. Elle eut recours à un nouveau subterfuge et renversa bruyamment une chaise comme par accident. Puis elle écouta pour savoir si elle était parvenue ainsi à réveiller les matelots. Le ronflement bruyant continua et nul son de quelqu'un se remuant ne se fit entendre de chaque côté de nous. « Mes hommes sont de profonds dormeurs, » dis-je en souriant d'un air significatif. « Ne craignez rien, vous ne les avez pas troublés. Rien n'éveille les matelots hollandais une fois qu'ils sont arrivés à bon port. » Elle ne répondit pas, ma patience était à bout. Je quittai la porte et j'avançai vers elle. Elle se recula, muette de terreur, jusqu'au bout de la cabine, en passant derrière la table. Je la suivis jusqu'à ce qu'elle eût atteint l'extrémité de la chambre et qu'elle ne pût aller plus loin. Elle rencontra mon regard fixé sur elle et se blottit dans un coin en criant au secours. Dans la terreur mortelle qui s'était emparée d'elle, elle avait perdu l'usage de la voix. Ses lèvres ne laissèrent échapper qu'un gémissement rauque et étouffé, à peine plus distinct qu'un soupir. Déjà je me voyais, en imagination, avec elle sur le plat-bord du bâtiment. Déjà je sentais le contact de l'eau, lorsqu'un cri, poussé derrière moi, me fit tressaillir. Je me retournai. Le cri partait d'Elfie. Elle venait de découvrir, dans le sac, un nouvel objet qu'elle agitait avec admiration au-dessus de sa tête. « Maman, maman !» s'écria l'enfant hors d'elle-même. « Regardez quelle jolie chose ! Oh, priez-le de me la donner !» Sa mère courut à elle, avide de saisir la moindre excuse pour m'échapper. Je la suivis. J'étendis le bras pour la saisir. Elle se retourna subitement vers moi, complètement transformée. Une légère rougeur colorait son visage. Un étonnement curieux brillait dans ses yeux. Arrachant de la main de l'enfant l'objet désiré par Elfie, elle me le présenta. Je l'aperçus à la clarté de la lampe. C'était mon petit souvenir oublié, le pavillon vert. « Comment vous êtes-vous procuré cela ?» me demanda-t-elle en attendant haletante ma réponse. Son visage ne conservait pas la moindre trace de la terreur qu'il avait bouleversée une minute auparavant. « Comment vous êtes-vous procuré cela ?» répéta-t-elle en me saisissant le bras et en me secouant avec l'impatience effrénée qui la possédait. Ma tête tourna. Mon cœur battit furieusement sous le conflit des émotions que Madame Van Brandt avait soulevées en moi. Mes yeux étaient rivés sur le pavillon vert. Les paroles que je voulais prononcer refusèrent de me venir. Je répondis machinalement « Je l'ai depuis mon enfance. » Elle me lâcha et leva les mains en l'air avec un geste de gratitude extatique. Un adorable éclat angélique se répandit comme une lumière céleste sur son visage. Pendant un moment, elle demeura ravie en extase. L'instant d'après, elle me pressa avec passion sur sa poitrine et murmura à mon oreille « Je suis Marie d'Armody, c'est moi qui l'ai fait pour vous !» Le coup de cette découverte, suivant de si près tout ce que j'avais souffert précédemment, fut trop fort pour moi. Je tombai et m'évanouis dans ses bras. Lorsque je revins à moi, j'étais couché sur mon lit dans la cabine. Elfie jouait avec le pavillon vert et Marie était assise près de moi, ma main dans les siennes. Un long regard d'amour passa silencieusement de ses yeux dans les miens et des miens dans les siens. Dans ce regard, les âmes sœurs s'étaient rejointes, les deux destinées s'étaient accomplies.